VOA Afrique.
Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui, édition du mercredi 14 décembre 2016. En direct de Washington, Idrissa Sedoulia et Anne Albertson. Pour commencer, les titres.
Rien de concret en Gambie après les discussions hier à Banjul de la délégation présidentielle de la CEDEAO.
En Guinée-Bissau, le gouvernement du Premier ministre Oumaru Sissoko Embalo a prêté serment hier.
En République démocratique du Congo, le MLC de Jean-Pierre Bemba s'est retiré du nouveau dialogue politique de Kinshasa qui se tient sous l'égide de la CENCO, la Conférence épiscopale nationale du Congo.
Le groupe djihadiste État islamique a revendiqué hier l'attentat contre une église copte qui a fait 25 morts au Caire dimanche.
Ici aux États-Unis, réaction mitigée à la nomination par Donald Trump du PDG d'ExxonMobil, Rex Tillerson, au poste de secrétaire d'État.
En Syrie, les rebelles et les civils qui le souhaitent attendaient toujours d'être évacués d'Alep après un accord conclu sous la houlette de la Russie et de la Turquie.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
Une délégation de 4 chefs d'État ouest-africains était hier à Banjul pour rencontrer les protagonistes de la crise gambienne et essayer de convaincre le président Yahya Jammeh de reconnaître sa défaite. Mais rien de concret n'est sorti de cette visite. De son côté, le parti présidentiel a déposé hier un recours pour contester les résultats du scrutin du 1er décembre, donnant M. Jammeh perdant. Les explications d'Abdourahmane Dia.
L'Alliance patriotique pour la réorientation et la construction, le parti du président Yahya Jammeh, demande à la Cour suprême d'annuler les résultats de l'élection car la commission électorale n'aurait pas compilé les résultats correctement. Selon la commission, Adama Barrow devance de quelque 19 000 voix Yahya Jammeh, qui avait dans un premier temps reconnu sa défaite avant de se raviser. Quelques heures plus tôt, les forces de sécurité avaient bloqué l'entrée des locaux de la commission électorale, démontrant que Yahya Jammeh avait toujours contrôle sur l'armée et la police. Le président de la commission électorale dit même craindre pour sa sécurité. Les chefs d'État envoyés par la CEDEAO ont donc trouvé à Banjul une situation tendue. N'empêche, le président nigérian Muhammadu Buhari a déclaré qu'ils ont rencontré un Yahya Jammeh très réceptif, alors qu'Ellen Johnson Sirleaf du Liberia a indiqué que la délégation n'était pas venue à Banjul pour un deal, mais plutôt pour aider les Gambiens à trouver une solution vers une transition. Pour l'heure, rien n'indique que Yahya Jammeh est prêt à quitter le palais présidentiel au profit d'Adama Barrow.
Le gouvernement bissau-guinéen, formé par Oumaru Sissoko Embalo, a prêté serment hier, près d'un mois après la nomination par le président José Mario Vaz d'un nouveau premier ministre pour sortir le pays d'une longue crise politique. Nanit Talani.
Les membres de la nouvelle équipe ont juré de remplir leurs fonctions avec droiture et abnégation. Elle est composée de 37 membres, dont 4 femmes. La plupart des membres de l'ancien gouvernement ont été reconduits. Parmi les arrivants figurent le ministre des Affaires étrangères, Georges Malou, du Parti de la Rénovation sociale, première formation de l'opposition, et 3 dissidents du parti au pouvoir. Les finances sont confiées à Diao Mamadou Fadia, actuellement directeur du bureau local de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. 2 petites formations ont reçu les portefeuilles du commerce et du tourisme. Lors de la cérémonie, le Premier ministre Embalo a remis au chef de l'État une enveloppe contenant une déclaration de ses biens et a demandé aux membres du gouvernement de faire de même dans les 48 heures. C'est pour marquer une différence dans la gestion. Nous devons tous donner des preuves de transparence, surtout quand nous gérons des biens publics, a-t-il déclaré.
Au Burkina Faso, des centaines de manifestants, mais aussi les radios et les télévisions burkinabés, ont observé hier 13 minutes de silence. C'était en hommage au journaliste d'investigation Norbert Zongo, assassiné il y a 18 ans jour pour jour sous le régime du président déchu Blaise Compaoré. À 15h, les radios et télévisions ont observé 13 minutes de silence média à la demande des associations de journalistes et de presse, pour protester contre l'impunité et le déni de justice dans le cadre de cette affaire. La justice a rouvert le dossier à la chute de M. Compaoré fin octobre 2014, chassé par la rue après 27 ans au pouvoir.
En République démocratique du Congo, le MLC, Mouvement de libération du Congo de Jean-Pierre Bemba, a confirmé hier sa décision de retrait des discussions directes organisées sous l'égide de la CENCO, Conférence épiscopale nationale du Congo. Dans un communiqué signé par sa secrétaire générale Eve Bazaïba, le MLC a justifié cette décision par la position qu'elle juge, et je cite, hégémonique du rassemblement coalition d'opposition formée autour de l'opposant historique Étienne Tshisekedi. La table ronde convoquée par les évêques catholiques a pour but de trouver un compromis en vue de mettre sur pied une période de transition entre le 20 décembre, fin du mandat de M. Kabila, et l'élection de son successeur à une date qui reste encore à déterminer. Nous y reviendrons dans la seconde partie de cette édition.
Et l'annonce du retrait du MLC du dialogue a été rendue publique le jour même où le procureur de la CPI a requis 8 ans de prison contre Jean-Pierre Bemba dans une affaire de subornation de témoins en vue d'obtenir son acquittement dans son procès lié à la Centrafrique. Monsieur Bemba est détenu depuis 2008 à La Haye et il a été condamné en juin à 18 ans de prison par la Cour pénale internationale pour une vague de meurtres et de viols commis en Centrafrique entre octobre 2002 et mars 2003 par le MLC du temps où il était une milice.
Égypte, le groupe djihadiste État islamique a revendiqué hier l'attentat contre une église copte qui a fait 25 morts au Caire dimanche. Dans un communiqué publié sur Internet, le groupe identifie le kamikaze comme étant Abu Abdallah al-Masri, l'Égyptien. Durant les funérailles des victimes lundi, le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi avait lui parlé d'un certain Mahmoud Shafik Mohamed Mustafa, 22 ans. C'est l'ADN qui a permis de l'identifier, selon les autorités. Le ministère de l'Intérieur a également donné les identités des 4 personnes, 3 hommes et une femme, arrêtées dans le cadre de l'enquête. Les autorités continuent de rechercher d'autres suspects, selon le ministère.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, réaction mitigée à la nomination par le président élu Donald Trump du PDG d'ExxonMobil, Rex Tillerson, au poste de secrétaire d'État. Certains anciens et actuels officiels ont salué cette nomination, tandis que d'autres, dont les sénateurs républicains John McCain, Marco Rubio et Lindsey Graham, ont exprimé des préoccupations quant à ses liens avec la Russie. M. Tillerson entretient des relations amicales avec Vladimir Poutine et a passé toute sa carrière, soit 41 ans, dans la même compagnie pétrolière.
A signalé aussi que Donald Trump a promis d'abandonner à ses fils, Don et Eric, et à d'autres cadres, la gestion de sa vaste nébuleuse immobilière. Aucun nouveau contrat ne sera passé durant mon ou mes mandats, a tweeté hier M. Trump. Mais souligne des analystes, cette promesse n'évitera pas les conflits d'intérêts. Donald Trump a néanmoins reporté à plus tard une conférence de presse prévue jeudi sur l'avenir de ses affaires. Sa société, la Trump Organization, est une nébuleuse non cotée en bourse avec des activités dans 20 pays, de l'Écosse aux Émirats, de l'hôtellerie au mannequinat, en passant par les clubs de golf et gratte-ciel résidentiel.
En Syrie, les rebelles et les civils qui le souhaitent attendent toujours d'être évacués d'Alep après un accord conclu sous la houlette de la Russie et de la Turquie. Cette opération marquera la fin de plus de 4 ans de rébellion dans la deuxième ville de Syrie. Précision de Jean-Roger Bion.
L'accord d'évacuation a été annoncé mardi par des groupes rebelles et confirmé par la Russie et la Turquie, parrains respectifs du régime de Bachar al-Assad et de l'opposition. Il est intervenu après le tollé international suscité par les atrocités qui auraient été commises contre les civils dans les quartiers repris par l'armée. Le département d'État américain a précisé que Washington n'avait pas été consulté par Ankara et Moscou. Même si c'est la fin du siège d'Alep, ce n'est pas la fin de la guerre en Syrie. Elle se poursuivra, l'opposition continuera à combattre, a déclaré son porte-parole John Kirby. Sur le terrain, les armes se sont tues depuis le milieu de l'après-midi de mardi, après 4 semaines de bombardements intenses sur les quartiers tenus par les insurgés dans la partie orientale d'Alep, selon une journaliste de l'AFP et l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Alep est dans une situation d'urgence absolue. Environ 100 000 personnes sont encore piégées sur un territoire de 5 km², a déclaré à l'AFP la présidente de Médecins du Monde, Dr Françoise Sivignon, appelant à sauver les civils de cet enfer.
En France, les députés ont adopté une 5e prolongation de l'état d'urgence post-attentat dans la nuit de mardi à mercredi, et ce jusqu'au 15 juillet, soit après la présidentielle et les législatives. Cette prolongation devrait être confirmée demain au Sénat. La France se trouve en situation d'état d'urgence depuis le 13 novembre 2015, le jour des attentats qui avaient fait 130 morts à Paris et Saint-Denis, en banlieue parisienne.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Nani Talani.
Le Fonds monétaire international approuve deux programmes d'aide triennaux en faveur de la Côte d'Ivoire pour un montant global de 658,9 millions de dollars. Cela permettra le décaissement immédiat d'environ 94,1 millions de dollars. Le reliquat sera échelonné sur 3 ans après des examens semestriels sur l'application du programme de réforme économique auquel se sont engagées les autorités ivoiriennes. Ces programmes d'aide visent à assurer la viabilité de la balance des paiements, à promouvoir une croissance inclusive et la réduction de la pauvreté. La Banque africaine de développement investit 65 millions dans l'électrification du Niger. L'objectif est de renforcer la capacité de production du Niger de 20 mégawatts. Ce projet permettra aussi de donner d'ici 9 ans accès à l'électricité à 18 millions de Nigériens et à environ 46 000 ménages, soit environ 331 000 personnes, dont 50% de femmes. Et pour finir, le déficit budgétaire des États-Unis a atteint 137 milliards de dollars en novembre, un montant en hausse de 112% sur un an. Les analystes prévoyaient un déficit moyen de 135 milliards de dollars. Sur les 2 premiers mois de l'exercice budgétaire 2017, entamé le 1er octobre, le déficit atteint 181 milliards de dollars, soit 20 milliards de moins sur la même période que l'an dernier.
À présent, les sports avec Nicolas Pineau. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa.
Coupe du monde des clubs de foot, l'Afrique veut sauver l'honneur.
Dans le match pour la 5e place, les Mamelodi Sundowns tenteront de battre les Sud-Coréens du Gyeongbuk Hyundai. Le perdant de ce match terminera dernier de la compétition. Et à suivre plus tard ce mercredi, la première demi-finale, l'équipe japonaise des Kashima Antlers face à la formation colombienne de l'Atlético Nacional. La seconde affiche des demi-finales opposera demain les Espagnols du Real Madrid aux Mexicains du club América.
La légende camerounaise Rigobert Song va mieux.
Opéré le 7 octobre dernier à Paris après un accident vasculaire cérébral, le joueur apparaît très amaigri mais souriant sur plusieurs photos sur les réseaux sociaux comme Twitter.
Le Cameroun encore et la préliste pour la CAN 2017 dévoilée.
Hugo Brousse, le sélectionneur du Cameroun, a dévoilé une présélection de 35 joueurs pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Le Belge, âgé de 64 ans, n'a toutefois pas convoqué Stéphane Mbia, le milieu de terrain qui joue au eBay China Fortune, ni Carlos Kameni, le gardien de Malaga en Espagne. On rappelle, Idrissa, que les Lions indomptables sont dans le groupe A dans cette CAN, avec le Gabon, le pays organisateur, mais aussi le Burkina Faso et la Guinée-Bissau.
Lewandowski prolonge avec le Bayern.
Robert Lewandowski prolonge jusqu'en 2021 avec le Bayern Munich. L'attaquant polonais arrivé libre au club bavarois en 2014 était précédemment lié jusqu'en 2019 avec le Bayern. On rappelle que Lewandowski a terminé meilleur buteur de la Bundesliga la saison dernière avec, tenez-vous bien, 30 buts. Il en a déjà inscrit 11 cette année dans le championnat allemand. Et puis Idrissa, je vous laisse donner comme d'habitude quelques résultats de NBA, le championnat de basket nord-américain.
Memphis Cleveland 86-103, Orlando Atlanta 131-120, Minnesota Chicago 99-94 et Golden State Warriors et New Orleans Pelicans 113-109.
Dans Washington Forum ce jeudi, on revient sur la volte-face en Gambie de Yahya Jammeh. L'ancien président est sous pression après sa brusque annonce de ne plus reconnaître sa défaite à l'élection présidentielle face à Adama Barrow. La CDAO a dépêché une mission à Banjul. Qui peut le convaincre d'accepter définitivement le résultat des urnes? Quel est le rôle de l'armée dans cette crise? Quelle est la marge de manœuvre de l'opposition dans ce bras de fer? Laissez-nous vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique et rendez-vous ce jeudi à 19h, temps universel avec Tatiana Mosso et ses invités.
le monde. Aujourd'hui, VOA Afrique.
Au micro, Idrissa Seloudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Reprise hier du dialogue politique en RDC, République démocratique du Congo, mais sans la coalition autour du parti de Jean-Pierre Bemba, le MLC. Le Front pour le respect de la Constitution qui a quitté ses assises met en garde contre la violation de la Constitution. Eddy Issango a joint à Kinshasa un des dirigeants du Front, le sénateur Raymond Ramazani Baya.
Nous avons été contactés par la CINCO pour dire qu'ils augmentaient le nombre de nos délégués. Nous avons reçu d'autres invitations à participer à des pourparlers pour la journée. Nous aviserons et nous consulterons notre base pour savoir ce qu'il faut adopter finalement comme attitude. C'est beaucoup plus qu'une question de nombre, une question de quotas. C'est une question, pensons-nous, de considération pour tous les participants. C'est une question d'égalité de traitement entre toutes les sous-composantes. Du respect des engagements que nous prenons. Si dès le départ, on avait convenu que le MLC ne bénéficierait avec ses alliés que de deux places ou délégués, on aurait pu comprendre. On aurait peut-être pu négocier, mais qu'on nous impose une situation dont nous ne comprenons pas la logique, c'est difficile à suivre. Mais en fonction de l'intérêt que présente ce dialogue pour l'avenir du pays, en fonction de la réaction de nos propres militants, nous aviserons.
Donc vous n'êtes pas totalement parti.
Pour le moment, la décision a été prise de confirmer notre retrait. Mais tous les amis qui nous appellent, tous les partenaires qui veulent que nous continuions à examiner la possibilité et les nouvelles conditions de notre participation, on va les examiner. Nous ne voulons pas fermer la porte.
Les MLC voudraient plutôt un dialogue technique. Vous décriez, vous dénoncez le fait que ce dialogue soit plutôt politique.
Le dialogue technique veut dire que nous voulons absolument arriver à fixer les échéances du calendrier électoral. Deux, que nous fixions des garanties pour qu'on ne vienne pas dans 4 mois, dans 6 mois, nous dire encore on n'a pas eu le moyen, on n'est pas prêt parce que nous puissions cette fois-ci nous mettre d'accord que le changement, l'alternance va se faire par les élections et pas toujours à travers des conciliabules, pas toujours à travers des dialogues. Il faut que le cycle électoral puisse être respecté. Maintenant, nous comprenons qu'on ne peut pas aborder uniquement cette question sans aborder un certain nombre de questions périphériques. Mais l'essentiel doit résider dans la fixation d'un calendrier électoral et dans la fixation des garanties.
C'était de Kinshasa, le sénateur Raymond Ramazani Baya.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Lubumbashi, c'est sur 102.8 FM en République démocratique du Congo.
À Brazzaville, l'opposition a ouvert hier sa deuxième convention, mais déjà, il ne fait pas l'unanimité. Plusieurs figures de l'opposition ne prennent pas part à ces assises organisées par Claudine Mounari et Charles Zachary Boao. En toile de fond de cette convention, les opposants continuent d'appeler le pouvoir à dialoguer et à mettre fin à des poursuites judiciaires à leur encontre. De Brazzaville, notre correspondant, Nguela Ngoussou.
Des centaines de militants de l'opposition se sont déployés chez René-Serge Blanchard-Oba pour cette deuxième convention. Une convention où ni Pascal Tsatsimabiala, ni Mathias Nzon ou Guy Brice Parfait-Kolela ne prennent part. Mais c'est André Okombi-Salissa, dont on est toujours sans nouvelles et qui a fait parvenir un message au cours de ses assises qui donne une explication à ses absences notoires.
Sassou Nguesso n'est pas seul responsable de ce qui nous arrive. Notre responsabilité en tant qu'opposition est largement engagée. Nous sommes responsables de notre manque de constance, de notre porosité, responsables aussi de l'achat des consciences. La consolidation des institutions, la rupture, le vivre ensemble, le statut spécial de l'opposition. Quel chapelet le pouvoir n'a-t-il pas égrené pour mystifier certains d'entre nous ?
Le dialogue avec la majorité au pouvoir reste un enjeu essentiel de ces assises, tel que le souligne ici Charles Zachary Boao, le coordonnateur de l'IDC Fourcade.
Puisque les gens ne veulent pas aller au dialogue, bon, l'avenir de ceux qui n'aiment pas le dialogue, c'est de chuter. Et le pouvoir de Brazzaville se comporte exactement comme les systèmes autocratiques en fin de potentiel historique. Nous y sommes, sans anticipation, sans aucune espèce de hauteur. Et je pense qu'on est dans l'insalubrité généralisée. Et le peuple ne saura accepter cela plus longtemps.
René-Serge Blanchard-Aubat, qui accueille cette rencontre chez lui, faute de salle dans la ville, déplore l'existence des positions tranchées entre pouvoir et opposition à Brazzaville.
S'il n'y a pas de combat d'idées, il n'y a pas de politique. Il y a eu une vie politique prise en otage. Il y a eu un hold-up électoral. Tournons la tête et regardons-nous. Que nous a opposé la majorité depuis le début de la crise sur le changement de la Constitution et les effets relatifs? Sans être d'accord toujours, c'est bien le moins entre l'opposition et la majorité. Nous aurions pu ouvrir un débat juridique et politique qui aurait pu forcer le respect des observateurs. Malheureusement, en face, rien et rien du tout.
La convention de l'opposition qui s'est ouverte hier à Brazzaville contribue davantage à diviser cette plateforme politique. Nguela Ngoussou, Brazzaville, VOA Afrique.
Vous êtes sur VOA Afrique à Brazzaville sur le 101.9 FM.
En Côte d'Ivoire, la campagne pour les élections législatives du 18 décembre bat son plein. La coalition du président Alassane Ouattara, c'est le RHDP, Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, veut la majorité absolue à l'Assemblée nationale constituée de 255 députés. Mais quelles sont les chances de l'opposition et de la querelle de candidats indépendants? Jacques Aristide s'est entretenu avec le journaliste indépendant Ferro Bali qui évoque d'abord les enjeux de ce scrutin organisé après l'adoption d'une nouvelle constitution.
Oui, je pense que ces législatives qui arrivent participent progressivement de la normalisation de la vie politique en Côte d'Ivoire. Le premier enjeu le plus important, c'est que on espère que la prochaine équipe qui va donc siéger à l'Assemblée nationale va plus être monocolore comme celle qui est en train donc de tirer sa révérence. Parce que pour une fois, je pense que les jeux sont ouverts et il est possible donc que la prochaine Assemblée nationale, qui va être donc mise en place à partir du 18 décembre prochain, puisse refléter un peu l'architecture politique ivoirienne. En dehors du FPI, de la tendance Sangaré, qui n'a pas accepté du moins d'aller aux élections.
Malgré l'émergence de quelques frondeurs, la coalition du président Ouattara semble avoir une longueur d'avance. Alors quelles sont les chances de l'opposition d'après vous?
L'opposition ivoirienne a une belle carte à jouer parce que d'abord, comme vous l'avez si bien dit, le RHDP, c'est-à-dire la coalition qui est au pouvoir, présente plusieurs candidats indépendants et l'enjeu est ce qui pourrait ensuite améliorer la situation de l'opposition, c'est que nombre de ces candidats dits indépendants ont été sanctionnés par donc la coalition politique au pouvoir. Donc l'opposition a une belle carte à jouer en essayant de tirer profit de cette division de la classe politique au pouvoir pour essayer un peu de faire son nid au plan politique ivoirien.
Peut-on s'attendre à une surprise finalement?
Nous espérons que les indépendants qui sont les plus nombreux d'ailleurs, ils sont les plus nombreux, ils constituent plus de la moitié des candidats actuellement retenus, que ces indépendants pourraient constituer un bon groupe parlementaire à l'Assemblée nationale, permettant un peu d'équilibrer les débats. Parce que l'Assemblée nationale de 2011 à 2016 était une caisse de résonance, il n'y avait aucun débat. Tous les projets passaient comme des lettres à la poste. Et le nombre pléthorique d'indépendants pourrait permettre de constituer un bon groupe parlementaire pour équilibrer un peu les débats, pour enrichir les débats à l'Assemblée nationale, parce que un pays comme la Côte d'Ivoire a besoin aujourd'hui de retrouver un peu des lettres de noblesse démocratique au niveau des débats parlementaires, parce que c'est là-bas que se décident toutes les lois et tous les grands textes qui engagent l'avenir du pays. Et donc, il serait intéressant que ces nombreux candidats indépendants puissent tenir la dragée haute et donc pouvoir être une force politique qui compte au niveau de l'Assemblée nationale.
C'était d'Abidjan, le journaliste ivoirien Ferro Bali.
Restez branchés sur VOA Afrique à Abidjan sur 99.0 FM en Côte d'Ivoire.
Poursuivant la série de VOA Afrique sur Flint, cette ville du Michigan aux États-Unis dont les habitants ont bu de l'eau contenant du plomb pendant 18 mois, aujourd'hui nous reparlons de Flint et des conséquences pour la santé des habitants. Nastasia Petey s'est rendue sur place pour faire l'état des lieux. Elle a rencontré des femmes qui dénoncent la crise sanitaire depuis le début.
Il y a 2 ans, en avril 2014, la ville de Flint décide de se fournir en eau potable depuis sa propre rivière au lieu de l'acheter à Détroit. Elle pense alors faire des millions de dollars d'économies. Mais 18 mois plus tard, en octobre 2015, plusieurs lanceurs d'alerte dévoilent que l'eau est contaminée au plomb. Parmi eux, Dr Mona, pédiatre à l'hôpital de Flint. Depuis un an, elle se bat pour trouver des solutions face à cette crise sanitaire.
Nous avons les ressources en place, des bouteilles d'eau et des filtres sont disponibles dans les centres de distribution. Nous avons débuté nos efforts de reconstruction pour être sûrs que nos enfants aient toujours un avenir radieux devant eux.
L'eau a contaminé des femmes enceintes et des enfants, les plus sensibles face au plomb. Au jour le jour, la pédiatre essaie d'aiguiller les familles dans ce traumatisme.
Quand les parents viennent me voir, la première question qu'ils me posent est « Est-ce que ça va aller pour mon enfant ?» Et qu'est-ce que je peux répondre à ces mamans ? Pendant plus de 2 ans, leur enfant a été contaminé par de l'eau composée de plomb. J'essaie de leur expliquer ce qu'elles devraient faire et peuvent faire.
Du côté des adultes, c'est l'équilibre mental qui a été touché. La confiance a disparu et les résidents commencent à être fatigués de voir la situation figée. Le révérend Dawson encourage ses paroissiens à parler à des spécialistes. Il a vu une montée de l'anxiété dans sa communauté.
Quelques personnes sont venues me voir avec des tendances paranoïaques. La méfiance s'est répandue à cause de l'eau contaminée. Ils ont entendu une chose, mais la réalité était très différente.
Et parfois, les habitants sont anxieux, voire en colère. Le révérend essaie de calmer les esprits comme il le peut.
Il y a de la frustration, mais aussi de la colère, jusqu'au point où certaines personnes sont au bord de la crise de nerfs à cause de la lassitude, de la rage, et j'essaie de les calmer.
Les maladies mentales se sont développées à grande vitesse à Flint. Le plomb et la défiance ont accéléré de nombreuses pathologies. La ville a mis en place des cellules psychologiques pour aider la population. Mais est-ce que cela guérira la méfiance envers le système politique?
Eh bien, c'était Nastasia Peteuil. Merci Nastasia. Rendez-vous demain pour parler des personnes inculpées et du ressentiment des habitants à l'encontre du gouverneur du Michigan, Rick Snyder. Vous pouvez retrouver cette série « L'eau de la colère » dans son intégralité sur notre site internet voafrique.com.
Dans Washington Forum ce jeudi, on revient sur la volte-face en Gambie de Yahya Jammeh. L'ancien président est sous pression après sa brusque annonce de ne plus reconnaître sa défaite à l'élection présidentielle face à Adama Barrow. La CDAO a dépêché une mission à Banjul. Qui peut le convaincre d'accepter définitivement le résultat des urnes? Quel est le rôle de l'armée dans cette crise? Quelle est la marge de manœuvre de l'opposition dans ce bras de fer? Laissez-nous vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique et rendez-vous ce jeudi à 19h, temps universel, avec Tatiana Mosso et ses invités.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au programme International Music, Comedy et Country Music. RM Show, c'est aussi l'interactivité en direct sur Facebook Live. Si vous voulez me voir en direct, écoutez de la bonne musique et partagez vos idées avec le reste du monde, connectez-vous sur notre page Facebook VOA Afrique à 20h, temps universel. Nous avoir au téléphone, appelez au 001-202-619-3140, vos SMS et WhatsApp au 001-703-350-3731. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sidoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.